Christian Demeter, c'est toujours un bonheur de vous retrouver parce que chacune de nos rencontres est accompagnée d'un livre, d'un album. Et ici, il s'agit de Scarface, que vous adaptez d'après le roman homonyme de Armitage Trail dans la collection Rivage Casterman Noir. Alors, vous aimez vous attaquer aux personnages mythiques?
Non, pas spécialement, c'est juste le hasard. Effectivement, le personnage mythique, c'est le premier vraiment personnage mythique que j'attaque. Avant, c'était un roman, Shutter Island. Ah oui, Marilyn, entre-temps.
Marilyn quand même, un mythe.
Oui, c'est vrai, j'avais oublié. Non, oui, c'est le hasard. Non, mais c'est moi, c'est mes questionnements sur l'identité. C'est vrai que je me suis rendu compte qu'effectivement, Scarface, effectivement, c'est un mythe, parce qu'en faisant les interviews, des fois, je rencontre des gens qui, finalement, n'ont pas vu les films, n'ont pas forcément lu le roman, mais qui connaissent Scarface, et qui, en lisant ma bande dessinée, ils retrouvent leur Scarface ou non, mais tout le monde a son Scarface en tête. Oui, c'est un personnage mythique, quoi. C'est assez étonnant, ce pauvre auteur mort qui a fait je crois, deux romans.
Oui, d'après voilà. Oui, c'est vrai, deux romans.
Il meurt à 28 ans, voilà, d'une crise cardiaque, sans connaître le destin de son personnage, qui est devenu effectivement comme Dracula, un personnage totalement mythique, qui est devenu.
J'ai découvert que le roman avait été écrit à l'époque où Al Capone vivait toujours, donc ils auraient pu se rencontrer, Al Capone et Armitage Trail.
Bon, en fait, même au-delà de ça, je pense qu'il a fait ce roman parce qu'il avait côtoyé. Pas Al Capone lui-même, mais je crois ses avocats. Et donc, il est au courant de certaines choses et il a fait ce roman parce que voilà, il connaissait un petit peu ce domaine-là. Alors, est-ce que c'est une vraie crise cardiaque à 28 ans?
Oui, on ne sait jamais. Alors, j'aimerais savoir, en premier lieu, comment avez-vous procédé cette fois-ci? Vous avez lu le roman, vous avez vu le film d'Howard Hawks, et puis vous êtes imprégné de ça, ou bien vous êtes dit, je gomme tout ce que je sais de Scarface et je le réinvente?
Alors, dans l'ordre, c'est une proposition, en fait, de Rivage. Je pense que c'est... Je ne sais pas si c'est Alexis Nolan, ou si c'est François Guérif qui ont pensé, mais ils m'ont suggéré, parce que je cherchais moi à faire encore une adaptation. J'avais des pistes, mais bon, je n'étais pas convaincu. Je leur ai demandé s'ils avaient des suggestions à me faire, de ne pas hésiter. Ils m'ont suggéré Scarface. Et c'est vrai que sur le coup, moi, je connaissais, j'avais surtout les images en tête du dernier, de Palma, avec Pacino. C'est pas trop mon univers. Donc, bon, sur le coup, quand ils m'ont proposé Scarface, j'ai pas sauté de joie en me disant, ouais, c'est exactement ça qu'il me faut.
Vous aviez lu le roman ou pas?
Mais non, justement, du coup, j'aurais dit que j'allais lire le roman. Et en lisant le roman, j'ai vu qu'effectivement, ben, le roman n'est pas si proche que ça des films. Donc, j'ai revu le Hawks aussi pour bien voir. Parce que si les films avaient été très fidèles au roman et très voilà, s'il n'y avait pas de place pour moi pour faire un truc un peu différent, ça ne servait à rien de le faire. Donc là, j'ai vu que les deux films, bon, d'autant plus De Palma, parce qu'il retranscrit dans une époque complètement différente, avec, voilà, il change beaucoup de choses, donc ça n'avait plus rien à voir avec le roman. Le film de Hawks est un peu plus proche, mais en même temps, pas tant que ça. Donc il a mis l'accent sur certaines choses. Moi, dans le roman, c'est d'autres choses qui m'ont intéressé. Donc à partir de ce moment-là, quand j'ai vu qu'il y avait des thèmes qui, moi, m'étaient chers, et que j'avais la place pour faire quelque chose d'un peu personnel et différent de ce qui avait déjà été fait, ben oui, j'ai dit à Casterman et à Rivage que j'étais très enthousiaste à l'idée d'adapter Scarface.
Alors, quelles sont ces thématiques qui vous ont plus particulièrement touché? C'est la fratrie, peut-être, puisqu'on démarre là-dessus, on démarre sur la mort de...
Alors, la fratrie, oui. Et dans un premier temps aussi, cette notion d'identité qui, moi, me poursuit dans mes histoires, dans mes romans, j'allais dire, mais dans mes romans graphiques, voilà. La notion d'identité, là, c'est quand même quelqu'un qui change d'identité et qui se retrouve avec une, finalement, plus du tout de frein. Mais en même temps, puisqu'il revient de la guerre défiguré.
Le mot Scarface, c'est le visage, voilà, avec une cicatrice,
une cicatrice
déchirée.
Tout en travers du visage, qui fait que les gens ne le reconnaissent plus. Il a pris aussi un peu d'âge en étant resté un an ou deux à la guerre. Et en plus, les gens sont persuadés qu'il est mort, puisqu'il a été dans ses morts au combat. Donc il se rend compte qu'il peut recommencer une vie totale, comme il souhaite, sans aucun frein, sans aucun regard extérieur de la famille. Sauf que voilà, il va partir dans son délire mégalomane, mais sans racines, sans repères, et il va s'y perdre un petit peu. Donc ce qui m'intéressait, voilà, c'était ce changement d'identité et cette perte de racines, et où est-ce que ça pouvait l'emmener, ce personnage. Et d'un autre côté, la fratrie. Et du coup, j'ai voulu montrer dès le départ quel était mon point de vue, c'était, enfin, mon sur quoi j'avais axé cette histoire, c'est le fait que deux frères, comment se fait-il que deux frères, ça commence comme ça, donc je révèle rien d'histoire.
Oui, le début et la fin, finalement.
Deux frères, comment se peut-il que l'un va être amené à tuer l'autre sans qu'il ne sache que c'est son frère qu'il tue ? Comment on peut se perdre à ce point dans une vie entre deux frères ? Donc voilà, c'est ça qui m'intriguait, enfin plus que ça, qui me travaillait.
Alors dans la construction proprement dite des personnages, des décors, des couleurs, des lumières, on retrouve dans celui-ci, mais peut-être poussé à un point d'incandescence presque, votre travail sur la lumière, sur la manière dont une lumière construit un décor, mais aussi le décor d'un visage.
Mais il y avait plein de choses. Il y avait moi je voulais rappeler que ceci avait existé. Donc je voulais retrouver des lumières qui me semblaient assez réelles et assez douces en même temps. Donc c'est pour ça qu'il y a cette espèce de jus un peu jaune. Ça me rappelait pas mal les images que j'avais vues dans Gone Baby Gone, des ciels de Boston, comme ça, que je trouvais très... très beau, quoi. Et je voulais retrouver un petit peu ça, tout en voilà, leur donner une sorte de réalité presque anodine, et en même temps des gens qui ont une manière d'aborder la vie qui est pour moi qui est complètement inconcevable. Donc voilà, je voulais remettre de la réalité, et c'est aussi des gens qui vivaient beaucoup la nuit, la nuit leur appartenait, et donc voilà, fallait jouer sur aussi ce côté la lumière au milieu de cette pénombre, voilà.
C'est vrai que vous êtes vraiment un dessinateur ou un recréateur de la nuit, de ces ambiances de ville, la nuit, dans les éclairages de phares, de voitures, dans cette lumière un peu à la... comme ce peintre dont le nom est Edward Hopper, un peu.
Ben en fait, oui, c'est moi, j'ai un dessin qui va avec les histoires sombres, j'ai les histoires sombres qui vont avec mon dessin. Donc forcément, je me retrouve dans des univers comme ça, toujours un peu... si c'est pas la nuit, ça va être le crépuscule. Si c'est pas crépuscule, ça va être l'aube. Enfin, ça va être toujours des lumières. Mais bon, voilà, je pense que j'ai le dessin qui va avec ce type d'histoire et inversement. Donc, mais en même temps, Marilyn, oui, il y avait la neige, mais il y a aussi la nuit, c'est vrai.
Et dans Shutter Island aussi, on était aussi dans cette... Enfin, peut-être un peu différent.
Shutter Island, c'était plus l'humidité que je voulais faire ressentir, sorte d'humidité, une sorte de poids. Il y a de temps en temps des scènes de nuit, mais ça prime pas plus que ça. Mais c'est vrai que dans le prochain sur lequel je suis en train de travailler, là, par contre, ça va être essayer de faire ressentir l'angoisse, le poids... l'angoisse, je pense que ça va être le bon terme, avec un certain humour quand même, et tout ça en plein milieu du soleil et du désert australien. Donc je vais changer complètement de décor, mais j'essaie de faire quand même passer des sentiments comme ça assez angoissants, malgré le soleil, malgré a priori les décors qui sont faits pour les vacances et la détente.
C'est vrai que ça peut être encore plus impressionnant, hein. C'est un peu une démarche à la Kubrick, ça, à travers le quotidien, de quand même montrer combien l'angoisse est présente.
Alors tout ça, c'est des choses que c'est vrai que là, on les met sous forme de mots, mais c'est vrai qu'on est... Enfin, on est, parce que je pense que je peux parler aussi au nom de certains camarades auteurs, quand on discute ensemble, on se rend compte que c'est un peu ça. On fait les choses assez instinctivement, on ne va pas réfléchir à ce point. Après, on ne fait pas les choses non plus par hasard, mais ce n'est pas quelque chose qu'on va mettre noir sur blanc, je vais faire ceci, je vais faire cela. C'est assez instinctif. Et des fois on se comprend aussi à travers son travail, on comprend après coup, pourquoi on est allé dans cette voie-là. Sur le moment, ça nous paraissait naturel. Et puis après, justement, souvent en interview, d'ailleurs, le fait d'en parler, de mettre des mots là où nous, on va mettre des dessins ou des cases, ou enfin des bulles, des dialogues à travers des personnages. D'un coup, on est obligé d'expliquer un petit peu ce qu'on a voulu faire. Des fois, on se comprend un petit peu mieux à travers ça, cet exercice-là. Et mais souvent, c'est plus instinctif que ça. Voilà.
Enfin, le rôle de lecteur ou de l'intervieweur est aussi de proposer des lectures à l'auteur, ce qui lui permet peut-être de découvrir, enfin, pas de découvrir, mais d'être surpris parfois par la manière dont on peut interpréter des intentions qui n'y figuraient pas, mais qui viennent d'instinct, qui viennent spontanément.
Mais elles sont là sans être là, c'est-à-dire qu'on le sait sans y mettre des mots dessus, quoi. Donc, mais après, voilà, c'est. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire des univers, alors ça va faire prétentieux, mais assez subtils, assez nuancés, pour que chaque lecteur me retourne une vision de mon travail un peu différent à chaque fois. Donc voilà, ça m'intéresse beaucoup de faire des personnages suffisamment nuancés, même pourtant Scarface, qui n'est pas tant que ça. Mais j'essaie de le faire d'une certaine façon, de donner des explications à son parcours, à sa manière d'avancer, que chaque lecteur, j'espère que chaque lecteur va le recevoir, lui, en fonction de ce qu'il a envie de recevoir, de chaque image, des petits détails que je vais laisser à droite à gauche. Et ça m'intéresse beaucoup, toujours.
Peut-être pour que ce soit peut-être plus facile, mais plus naturel, peut-être plutôt que de vous poser des questions sur le pourquoi vous faites telle ou telle chose, c'est peut-être de vous poser la question sur le comment vous faites telle ou telle chose. Alors comment avez-vous, lorsque vous avez terminé la lecture du roman d'Armitage Trail, comment avez-vous commencé le premier découpage? Comment avez-vous fait la première sélection de ce que vous alliez retenir?
Donc là, moi, j'ai déjà fait une adaptation, donc Shutter Island, dans la même collection. Et là, c'était vraiment un roman où j'étais obligé d'être extrêmement fidèle à la structure de l'histoire, parce que c'était une mécanique qui... tout reposait sur une mécanique très précise. À partir du moment où je m'écartais un petit peu trop, je prenais trop de risques et je risquais de rater l'adaptation. Là, Scarface, c'est totalement l'opposé, dans le sens où le roman, c'est vraiment un univers... avec un personnage, une époque, les années 20, la Prohibition, personnage un peu mégalomane qui va monter comme ça dans sa folie. Et, mais après, c'est un roman qui laisse beaucoup plus de liberté pour l'adaptation. Moi, je me suis servi de certains thèmes qui sont très peu présents ou un petit peu présents dans le roman. J'ai décidé de les mettre beaucoup plus sous ma lumière, et puis d'autres que j'ai complètement laissés de côté, ce qui fait que je pense être à la fois... plus proche du roman que ne le sont les films, mais en même temps, je me suis assez éloigné du roman dans la mesure où vraiment je me suis approprié, j'ai réécrit beaucoup de scènes, j'ai refait quasiment tous les dialogues, donc finalement, je ne suis pas si fidèle que ça, tout en l'étant beaucoup. Voilà, c'est un peu bizarre à dire, mais voilà, c'est comme ça. Après, comment on fonctionne? À partir du moment où il y a des thèmes qui vous parlent dans un roman, ben forcément vous allez essayer de garder les choses qui ont trait à ça. Et puis à un moment j'oublie que c'est un roman, et à partir du moment où j'ai fait une sorte de prédécoupage, ou en tout cas j'ai un plan dans ma tête, moi j'écris l'histoire comme si c'était mon histoire. Voilà, je me l'approprie complètement. J'ai en tête quand même le roman de base, donc je le trahis pas non plus, mais je trahis suffisamment pour lui être fidèle aussi.
Et alors les visages, comment est-ce que lorsque vous dessinez un personnage, peut-être pas le personnage de Scarface, mais peut-être les personnages qui gravitent autour de lui, à quel moment est-ce que vous sentez ce personnage correspond à la psychologie du protagoniste qu'il va devenir dans l'histoire? À quel moment est-ce qu'ils vous disent ça y est, on est arrivé à une expression de visage qui correspond au personnage?
Je cherche surtout sur les personnages principaux, donc vraiment j'ai cherché sur Scarface, sur son frère et sur la fiancée. Donc voilà, je fais des têtes en terre. En tout cas pour Scarface, j'ai fait une petite tête en terre. Voilà, c'est comme ça que je cherche moi les volumes des nez. Je préfère ça que le crayonné. Après, pour tout ce qui est personnages secondaires, il y en a quand même beaucoup aussi. Ils sont même plus que secondaires, ils sont des fois tertiaires.
Oui, oui.
Mais je suis plus à l'improvisation. Et puis il y a aussi tout un tas de, pour le coup, des personnages secondaires, les seconds rôles, comme on dirait au cinéma. Ouais. Ben, pour le coup, j'ai voulu faire un peu des second rôles de cinéma, donc j'ai fait des petits clins d'œil des fois à des films. Voilà, j'ai essayé de suggérer des personnages qu'on peut apercevoir dans le Hawks, dans le Scarface de Hawks, et j'en ai un autre que je suis allé chercher dans L'ennemi public. Je ne vais pas vous retrouver le réalisateur, mais avec James Cagney. Donc c'est un vieux film pareil, donc qui sont à la genèse de Scarface. Ce sont les Scarface qui s'inspiraient indirectement du roman. Voilà, c'est les premiers films. Donc voilà, je voulais faire. Quand on se permet, quand on a la prétention d'arriver comme ça, 80 ans plus tard, 90 années plus tard, et de refaire un Scarface, je trouvais que c'était le minimum, c'était faire les clins d'œil à ce qui avait déjà été fait dans le passé. Donc j'ai pas dessiné Pacino non plus, mais en tout cas je suis allé un peu à la genèse, oui. Faire des petits clins d'œil sur les personnages secondaires comme ça.
Mais c'est vrai que peut-être dans les lumières de certaines vignettes, on trouve cette texture du cinéma Howard Hawks, du cinéma noir et blanc, même si la bande dessinée, enfin l'album graphique n'est pas du tout en noir et blanc.
Par contre, ça m'a pas plus travaillé que ça. Je voulais vraiment essayer de retrouver des lumières anodines du quotidien et d'y mettre cette histoire qui, moi, me paraît complètement... pour moi, c'est surréaliste, ces histoires de truands qui profitent d'une situation pour faire du pognon, quitte à aller dans la violence, voire le meurtre. Puis plus ça va, plus ça monte, plus ils font des actions, plus ils s'autorisent à aller plus loin. Et de voir en plus la police en face totalement complice. Je dis pas que ça existe pas de nos jours, hein, ça existe certainement, toute cette violence. Bon, je la vois pas au quotidien. Mais moi, ça me paraît surréaliste. Donc voilà, je voulais rappeler que tout ça, c'est pas que du mythe, c'est pas que de la légende, c'est aussi partie d'une certaine réalité, et je voulais le faire à travers des lumières qui, moi, me paraissaient anodines dans le sens celles qu'on voit tous les jours, quoi, celles qu'on... Voilà, qui... Donc je voulais pas trop pousser, je voulais pas rentrer dans un graphisme, je voulais pas rentrer dans un truc trop cinématographique, au contraire, voilà. Donc le hoax, je pense pas m'en être tellement servi par rapport à toutes ces histoires de lumière. Je m'en suis servi pour des détails comme comment étaient les téléphones à l'époque, ce genre de petits détails. Donc ça, je me suis servi un peu de ces vieux films-là de l'époque, avec les chapeaux, même sans trop me prendre la tête avec ça, parce que je voulais pas non plus faire une visite guidée des années 20.
Christian Demeter, je vous remercie pour cette interview et puis pour ce Scarface qui, à la fois, est prenant et magnifiquement envoûtant, je dirais, qui donne aussi envie de relire le livre d'Armitage Trail et peut-être d'aller revoir quelques films de ces époques-là, mais en tout cas de lire Toutes Affaires Cessantes, ce très très bel album, ce très beau roman graphique Scarface aux éditions Rivage Casterman Noir. Et alors, je prends déjà rendez-vous pour le prochain.
Eh bien, volontiers, merci beaucoup.
Les rencontres d'Edmond.